Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
8h22, bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le nouveau secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, mais aussi porte-parole de ce nouveau gouvernement. Elisabeth Martichoux vous questionne.
Bonjour Christophe Castaner. Merci encore d'être sur RTL. Vous disiez il y a quelques jours, les plus proches sont souvent les premiers sacrifiés. Ce sera un gouvernement serré, il y a assez peu de place pour des mecs comme moi, député PS sortant. Raté. À quoi devez-vous votre nomination ?
Peut-être d'avoir été encore un peu plus proche. Non, je crois que c'est le souci d'équilibre du Premier ministre et du Président de la République, d'avoir des personnalités qui viennent de tous les horizons. Je viens d'un horizon qui a sa place aussi au gouvernement.
L'horizon le plus proche, c'est quand même d'avoir choisi Emmanuel Macron. Il y a un an, vous êtes parmi ceux qui l'ont rallié dès la première heure. Il a besoin de s'entourer de quelques fidèles. Il y a Gérard Collomb aussi, il y a Richard Ferrand.
Oui, je pense que c'est nécessaire, parce que nous sommes représentatifs. Mais en même temps, le risque aurait été de se retrouver entre nous. Et l'entre-soi en politique est toujours la mauvaise chose. Là, il y a un vrai renouvellement, il y a un vrai changement avec l'arrivée de ministres, de personnalités différentes. Mmh. La moitié venant de la société civile, d'autres venant de la droite, de la gauche. Et je vous dirais presque, peu importe, avançons.
Encore un mot sur votre engagement et sur cette relation avec le président de la République. Vous avez même déclaré à nos confrères du journal La Croix, être tombé amoureux de l'ancien ministre de l'économie. Vous avez si peu de distance que ça avec le chef de l'État ?
Vous savez, on peut être amoureux et exigeant. Et donc, j'essaie
bien. Ça enlève un peu de distance quand même, quand on est amoureux.
Oui, mais vous savez, il y a les trois premiers mois qu'on appelle le coup de cœur. Et puis ensuite, on a un peu plus de raison.
Vous l'avez dit, c'est un gouvernement composite. Droite à Bercy, gauche à l'intérieur, Modem à la justice et à la défense. Électron libre, Nicolas Hulot, ministre d'État à l'environnement, société civile expérimentée. Comment tenir les troupes, faire que tout le monde travaille ensemble dans la même direction? De qui ça dépend d'ailleurs d'abord? D'Edouard Philippe, le Premier ministre?
Je dirais que ça dépend des Français, parce qu'on a passé un contrat. Emmanuel Macron a passé un contrat il y a 10 jours, à 20h, un dimanche soir, avec les Français. Donc aujourd'hui, on est tous mobilisés uniquement avec cet objectif, mettre en œuvre le projet présidentiel.
Moi, je vous parle de la façon dont vous allez pouvoir travailler tous ensemble en venant d'horizons aussi différents tels que vous le revendiquez. Comment on fait? Est-ce que c'est le Premier ministre qui, d'une certaine façon, on dit toujours que c'est l'animateur de l'équipe gouvernementale, va être comptable de la cohérence et aussi empêcher des couacs, tout ce qui pollue
bien
un
sûr.
Gouvernement au départ.
C'est à la fois la responsabilité du Premier ministre que de l'animer, et c'est notre responsabilité à nous, les ministres, de respecter sa prééminence dans le fonctionnement collectif. C'est lui l'animateur, c'est lui qui doit mettre en œuvre cette politique. Le président de la République donne le cap, le Premier ministre, et les ministres l'exécutent.
Ouais.
Vous êtes conscient que vous avez deux bombes à retardement, qui s'appellent Nicolas Hulot et François Bayrou?
Il y en a peut-être plus, mais c'est le principe de la nature humaine. Il y a toujours des risques, surtout quand vous ne prenez pas des vieux briscards politiques. Mais je crois qu'il était temps aussi de tourner la page des vieux briscards.
Vous le connaissiez, Edouard Philippe?
Je le connaissais assez peu.
Vous voyez en lui cette capacité, encore une fois, à mettre le lien entre toutes ces personnalités qui viennent d'horizons différents, avec des histoires différentes et parfois complètement inexpérimentées dans l'exercice du pouvoir.
Je crois qu'il a deux qualités. D'abord, celle d'avoir choisi la liberté de s'émanciper de son parti politique. Et la seconde, c'est d'être un élu local. Et quand vous êtes un élu local, dans sa mairie du Havre, dans la mienne, à Fort-Calquier, vous savez qu'au fond, le vieux système, les vieux clivages politiques ne sont que cirque et que la réalité du quotidien, elle dépasse largement les clivages.
Vous inaugurez tout à l'heure vos fonctions, à 11h, après le Conseil des ministres. C'est votre premier point presse de porte-parole?
Je vous confirme, je vais tenter d'être à la hauteur.
C'est forcément être langue de bois d'être porte-parole?
Je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on l'est naturellement. Vous voyez, je ne le suis pas en vous répondant. Je pense notamment aux dossiers internationaux, sur lesquels il y a un risque à répondre à certaines questions. Mais moi, de par ma culture, et si le Premier ministre et le Président de la République m'ont choisi, ils savent que je ne le suis pas. Il m'est arrivé à plusieurs reprises pendant la campagne d'avoir des opinions différentes de celles d'Emmanuel Macron. Il ne m'a jamais fait reproche.
Tout est question de formulation.
Quelles seront les premières mesures du gouvernement, Philippe?
Ouais, je crois que le premier engagement, c'est celui de présenter au plus vite une loi sur l'éthique et la transparence.
Quand?
Et puis, avant les élections législatives, donc dans les 2 ou 3 prochains conseils des ministres, ce sera présenté.
Engagé avant les législatives?
Bien sûr, ce sera présenté en conseil des ministres pour une mise en œuvre la plus rapide possible. Mais d'ailleurs, vous avez vu que le président de la République et le Premier ministre ont mis l'éthique au cœur même de la composition du gouvernement, avec des procédures qui sont inhabituelles, qui n'avaient jamais été mises en œuvre, où on a épluché
Le texte est prêt.
Le texte n'est pas encore prêt. Il appartiendra au garde des Sceaux, nommé hier, de le présenter. Mais l'objectif, la base, le contenu, même s'il n'est pas traduit en formulation juridique, est déjà prêt parce qu'il a été porté par Emmanuel Macron.
Mais il n'y a aucun texte de loi qui est prêt. Rien n'a été préparé avant l'arrivée au pouvoir. C'est long l'élaboration d'un texte de loi.
Moi, je fais confiance à notre haute administration qui a cette capacité à entendre ce que les politiques veulent. Et vous verrez que dans les jours qui viennent, il y aura sur le bureau du ministre garde des Sceaux la possibilité de travailler sur un texte et de présenter ensuite au Conseil des ministres ce texte le plus vite possible.
Les ordonnances seront la voie législative privilégiée pour ces premiers mois pour la réforme du Code du travail et seulement pour la réforme du Code du travail. Si vous le faites d'ailleurs, ou il y aura d'autres textes qui prendront ce véhicule.
D'abord, il faut avoir en tête qu'à chaque session parlementaire, vous avez à peu près une trentaine d'ordonnances, et on n'en parle jamais. Mais celle-ci, elle est beaucoup plus sensible. Donc il y aura sûrement d'autres ordonances, c'est un mode
sur
de législation classique.
Sur quel sujet ? Sur les rythmes scolaires, par exemple, vous ne savez pas ?
Pour l'instant, ça n'est pas arrêté. Mais l'ordonnance n'est pas un problème démocratique. Par contre, il y a une volonté d'aller vite sur la réforme du Code du travail. Cet objectif d'aller vers le plein emploi nécessite d'aller vite et de ne pas perdre 2 ans, parce qu'il faut en moyenne 2 ans sur un texte législatif classique pour qu'il soit totalement en vigueur.
Aller vite, ça veut dire, pardon, avant la fin de la première session extraordinaire du Parlement, avant la fin juillet. Début août, les ordonnances seront prises.
Le calendrier, c'est de se donner la fenêtre de l'été pour travailler sur ces sujets. Notre objectif, c'est qu'à la rentrée de septembre-octobre, nous soyons opérationnels après un dialogue social nécessaire. Et puis, d'abord, 2 votes de l'Assemblée. 1 vote pour nous habiliter à travailler par ordonnance.
Ça va être votre boulot, Christophe Castaner, en tant que ministre des Relations avec le Parlement, avec une Assemblée dont vous n'avez aucune idée pour l'instant de quelle sera sa composition ni ses équilibres politiques.
Et ça aussi, c'est une chance folle d'avoir des femmes et des hommes nouveaux, un profond renouvellement, y compris dans les candidats aux élections législatives.
La chance folle, ce serait d'avoir une majorité absolue.
Non, ça ne s'appelle pas une chance, ça c'est du travail. Mais 77% de nos candidats de La République En Marche, aujourd'hui, ne sont pas élus. Alors oui, ils ne sont pas des professionnels de la politique, mais en même temps, ils sont représentatifs de la société, c'est pas mal aussi.
Ça veut dire que vous avez 2 mois pour convaincre Laurent Berger de vous suivre dans cette affaire du Code du travail ?
On a 2 mois pour poursuivre notre échange avec Laurent Berger, mais pas seulement avec Laurent Berger. Il faut qu'on échange avec tous et qu'on puisse entendre aussi ce que les syndicats ont à nous dire. Je ne doute pas que la ministre du Travail et le Premier ministre sauront aussi ouvrir la voie du dialogue avec eux.
Alors, parmi les nominations les plus visibles, c'est évidemment celle de Nicolas Hulot. Avec regret, il avait pris acte du vote favorable à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à Nantes. Aux manettes, il va enterrer le projet ?
Le président de la République a dit qu'il nous fallait 6 mois pour faire un point précis. Aujourd'hui, ce projet est condamné parce qu'il n'avance pas. Et donc, on se donne 6 mois pour voir dans quelle mesure il peut être revu, retenu ou abandonné.
Est-ce qu'il a dealé l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes pour un poste de ministre ?
Il n'y a pas eu de deal.
Est-ce qu'ils ont parlé de tout cela, de tous ces sujets, par exemple le nucléaire, Notre-Dame-des-Landes, des sujets quand même très importants pour Nicolas Hulot et qui ne sont pas du tout dans la ligne d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ont préparé le terrain ? Est-ce qu'ils ont aplani les désaccords ?
Je me permets quand même une chose, Christophe Castaner, Nicolas Hulot n'est pas amoureux du président Macron, comme vous venez de nous l'annoncer il y a quelques instants. Donc il y a forcément un accord, faute de deal. Il a refusé ce poste depuis des années. Le prend avec vous.
Mais je ne le conteste pas. Il y a une discussion politique et il y a les conditions politiques qui sont réunies. Mais notamment la première condition politique qu'a posée toujours Nicolas Hulot, celle de sortir de la logique des partis qui vous impose des dogmes et qui vous empêche l'analyse. Et donc c'est parce qu'il y a ce cadre-là et dans ce cadre-là, il y a un échange, il y a des discussions. Mais il ne s'agit pas de prendre tout ce à quoi pense tel ou tel ministre pour dire voilà la ligne politique. La ligne politique, c'est celle du président de la République qui a été élu par les Français et qui est mise en œuvre par le Premier ministre Édouard Philippe.
Vous nous confirmez qu'un ministre ou secrétaire d'État qui perd les élections législatives va quitter le gouvernement ?
Oui, le président l'a rappelé.
C'est un risque pour Bruno Le Maire, par exemple, qui est candidat dans l'heure. Vous pensez qu'il maintiendra sa candidature au risque de devoir partir de Bercy dans un mois ?
Écoutez, je ne vais pas me prononcer pour Bruno Le Maire, mais je vais me prononcer pour moi. Ma circonscription est difficile. Emmanuel Macron est arrivé en 3e position. J'aurais pu partir ailleurs. Ça m'a été proposé. J'ai fait le choix d'être candidat dans une autre circonscription plus facile. Ça m'a été proposé. J'ai fait le choix de rester dans ma circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Et je pense qu'effectivement, si vous êtes battu, c'est que vous n'avez pas la confiance de vos électeurs de proximité et donc vous n'avez pas la confiance des Français.
Je me permets de revenir un tout petit point en arrière. Le président Macron soutient la filière nucléaire. Il a toujours été très clair là-dessus, même s'il annonce une réduction de la part du nucléaire d'ici 2025. Le nucléaire fait partie du monde d'hier, a toujours dit Nicolas Hulot. Comment vous faites pour réunir les deux doctrines ?
Ben, je crois qu'il faut... La loi de transition énergétique, notre objectif, c'est de baisser la part du nucléaire dans notre production. Ce n'est pas de supprimer du jour au lendemain, mais l'objectif à terme est effectivement de baisser fortement la place du nucléaire.
Vous avez vu que l'action d'EDF a immédiatement baissé en annonçant la nomination du ministre.
Bien sûr, moins 6% ce matin.
Oui, mais vous allez trouver, là encore, un redressement assez vite. Il y a toujours des effets de surprise, mais derrière, ce sera régulé. Ce que nous voulons, c'est aller vers un mix énergétique. On a fait un choix industriel en France d'aller vers le tout nucléaire et quasi exclusivement, et aujourd'hui, nous sommes trop dépendant de la filière nucléaire. Il faut petit à petit en sortir.
Merci beaucoup Christophe Castaner, merci. Nouveau ministre des Relations chargées avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, d'avoir réservé votre première prise de position sur RTL. À très bientôt. Bonne journée à vous.
Merci à tous les deux.